voudrais vous raconter l'histoire du désir, ou plutôt l'histoire de deux amants. L'histoire de deux amants qui découvrent quelque chose. Oh, ils ont mis du temps. Longtemps, ils ont cru qu'ils savaient ce qu'ils désiraient. Ils ne savaient pas qu'ils avaient appris à désirer en recopiant les scripts du porno mainstream. Ils ne savaient pas que le registre de la domination qui les excitait, semble-t-il tous les deux, ne relevait pas de leur liberté sexuelle, mais d'une intégration implicite, inconsciente, des normes de la société patriarcale. Oh, comme ils se croyaient libres, ils se sentaient libres, et tout à leur prétendue liberté sexuelle, il leur a même parfois semblé normal, et même excitant, de ne voir en l'autre qu'un moyen de parvenir à son propre plaisir. Et puis, quelque chose a changé. Est-ce qu'ils ont lu Kant, qui nous apprend que l'on peut considérer l'autre en même temps comme une fin et pas simplement comme un moyen, et donc que l'on peut utiliser l'autre comme un moyen vers son plaisir, tout en respectant en même temps cet autre? Est-ce qu'ils ont compris que l'objet de leur propre désir leur échappait en partie? Est-ce qu'ils ont compris que l'objet du désir de l'autre leur échappait logiquement encore un peu plus? Est-ce qu'ils se sont mis à aimer cette obscurité du désir au lieu d'en avoir peur? Est-ce qu'ils ont compris que peut-être il fallait en parler, qu'il pouvait être bon d'en parler, et même bon d'en parler pendant qu'on le fait? Ils ont mis du temps à comprendre, car ils étaient mal élevés, ou pas élevés du tout. Ils voyaient même ça comme un tue-l'amour, pas excitant du tout d'en parler, de bavarder, de demander à l'autre ce qu'il aime, et même de lui redemander encore 5 minutes après. On va quand même pas lui reposer la question à chaque fois qu'on change de position, non? Tout à leur mauvaise éducation, soit ils se prenaient pour des dieux de l'intuition, capables de sentir comme ça, comme par magie, ce dont l'autre a envie, soit tout simplement, ils n'en avaient juste rien à faire du désir de l'autre. Dans le pire des cas, certains hommes assimilaient leur virilité de séducteur à la puissance de celui qui passe un peu en force, tellement charmant qu'il réussit à vaincre la résistance de celle qui ne dit non que pour finir par dire oui. Mais ils ont changé. Qu'est-ce qui a changé au juste? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Eh bien peut-être quelque chose qui s'appelle le désir. Et si la meilleure façon de savoir ce que tu désires, c'était de te le demander? Et si, mieux encore, la meilleure façon de savoir ce que je désire, c'était de t'en parler? Au fond, entre l'objet de mon désir et moi, il y a peut-être toi. Ils ont donc découvert, eux qui avaient appris à désirer, selon les codes de la domination, que l'égalité, elle aussi, pouvait devenir excitante. Pour en parler ce matin, de tout ce qu'ils ont appris, de tout ce qu'ils ont dû désapprendre, j'ai la joie de recevoir la philosophe Manon Garcia. Est-ce qu'ils ont lu Kant? Demandais-je tout à l'heure avec une pointe de mauvaise foi. Eh bien non, ils ont plutôt lu Manon Garcia, auteur notamment de « On n'est pas soumise, on le devient » et plus récemment de « La conversation des sexes, philosophie du consentement » qui a reçu le prix 2022 des rencontres philosophiques de Monaco. Manon Garcia donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à la très belle question sur laquelle s'achève son ouvrage « Et si l'égalité devenait érotique ?»
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Manon Garcia.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir fait le détour par Paris. Vous qui avez beaucoup enseigné aux États-Unis, allez bientôt enseigner à Berlin dans une très prestigieuse université, et qui donc avait écrit les deux livres que je viens d'évoquer. Alors on va aller directement au sujet de l'émission, l'érotisation de l'égalité. C'est là-dessus que s'achève votre très bel essai, comme une promesse. Hein. Donc cet essai, c'est La conversation des sexes, aux éditions Climat, sous-titré Philosophie du consentement. Et donc vous dites, Manon Garcia, que peut-être on pourrait rêver à une conversation des sexes respectueuse, excitante, et même, vous allez jusqu'à parler de cette érotisation de l'égalité.
Oui, je pense que c'est une question fondamentale de tous les débats actuels sur le sexe, qui est que on a cette intuition que ce qui est sexy dans le sexe, ce qui est plaisant, c'est la domination, les rapports de pouvoir, qui est sur qui et qui fait quoi, qui, comment, et une espèce de compréhension de la sexualité au prisme de la violence et de la domination. Et évidemment, ça rentre en conflit très grand avec les aspirations sociales d'égalité entre les sexes. Et évidemment, moi, la question qui me préoccupait, c'était de me dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il y aurait quelque chose du sexe qui ferait que ça ne pourrait pas être un endroit où on est des égaux et où être des égaux, ce serait vraiment ça craindrait, quoi. Ce serait vraiment pas très sexy, pas très sexy, excitant. Ouais. Voilà, de se dire... C'est un peu ce qu'on entend, toute la panique morale sur les campus américains, ils veulent nous empêcher de coucher les uns avec les autres.
Nous obliger à signer un contrat avant de faire
l'amour. Nous obliger à signer un contrat. Et en fait, ça, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi on a tant de mal à considérer que l'égalité puisse être érotique? Et pourquoi tant de gens si cultivés, si amoureux de la culture, peuvent nous dire « Ah non, mais le sexe, c'est un endroit où il n'y a pas de culture. Là, on est des animaux, on ne se respecte pas, on ne fait pas attention les uns aux autres. Là, c'est l'endroit où on est juste... »
On se lâche, quoi.
On est juste des corps.
On respire juste... enfin, tellement la société nous oppresse avec cette notion d'égalité. Enfin, quand la porte est fermée, on se lâche un peu.
Oui, mais quelle drôle d'idée, en fait. Est-ce que on considère que tout... Enfin, bon, là, on est d'une certaine manière entre philosophes, donc vous voyez,
il y a quand même quelques auditeurs.
Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que cette espèce d'idée de certains philosophes que l'homme est un loup pour l'homme, que de toute façon, la nature des hommes, c'est être en conflit avec les uns avec les autres. Est-ce qu'on croit ça, fondamentalement? Est-ce que vous et moi, est-ce que les auditeurs et les auditrices, ils pensent ça, que véritablement les rapports qu'on a avec les autres sont de la violence et qu'on essaye d'amoindrir la violence, mais que ce qu'on aime au fond c'est la violence? Moi je suis pas sûre.
Alors déjà vous avez raison, on croit plus ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que là vous faites référence à Hobbes, qui est un théoricien du contrat, et puis il y a un autre théoricien du contrat, Rousseau, et auquel vous faites aussi beaucoup référence dans votre livre, et en fait une de vos thèses importantes, on va peut-être recommencer par le début, c'est que le consentement sexuel, ça peut être une belle valeur, mais il faut justement pas la penser sur le mode du contractualisme. Notamment parce que sur un mode contractualiste, on consent et donc ça nous donne une obligation. Et vous expliquez que dans le cadre du consentement sexuel, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette question?
Oui, c'est vrai que quand on entend consentement, on pense droit et contrat. Et en fait, c'est une erreur qu'on fait parce que, en effet, le consentement en droit, quand il se réfère au contrat, a un sens très spécifique, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de contrat en droit que si les parties consentent. Mais ça ne s'applique pas, par exemple, au rapport sexuel, puisque le droit considère qu'on ne fait pas de contrat sur les rapports sexuels. Et donc, il y a en fait une division au sein même du droit entre ce qu'on appelle le droit civil et le droit pénal. Ouais. En fait, quand on parle de consentement en droit pénal, ça n'a pas du tout la même fonction. C'est-à-dire, quand on parle de consentement dans le cas d'un viol, ou dans le cas d'un meurtre, ou dans le cas d'un enlèvement, ça n'a pas du tout le même sens que quand on parle d'acheter un appartement. Donc, quand vous achetez un appartement, vous avez besoin d'un consentement et qu'il est souvent formalisé par un contrat. Dans le cas d'un achat d'appartement, c'est un contrat écrit. Quand vous montez dans un bus, c'est un contrat tacite.
Ouais, ou un taxi.
Mais quand on parle de consentement en droit pénal, on ne parle pas de signer un contrat. On parle de savoir si vous avez fait quelque chose à quelqu'un qui enfreint ses droits d'une manière qui est interdite par la loi. Par exemple, vous ne pouvez pas enlever quelqu'un avec son consentement.
Ouais.
Donc vous ne pouvez pas aller en prison pour enlèvement si la personne a été consentante. Mais vous pouvez aller en prison pour meurtre, même si la personne a été consentante.
Ah oui,
donc il y a différents types de crimes. Vous ne pouvez pas violer quelqu'un avec son consentement. Donc là, la notion de consentement, elle n'a rien à voir avec le contrat. Et on voit bien, je prends un exemple d'un juge qui raconte ça, qui dit « On ne peut pas dire à quelqu'un « Ah ben, je m'engage par contrat à coucher avec toi jeudi soir » et arrive le jeudi soir, on n'a plus du tout envie, et l'autre dirait « Eh oh, t'as signé un contrat là !» Ça ne marche pas comme ça, le consentement sexuel. C'est un autre type de consentement.
Vous voulez dire quand même que vous conservez la notion, mais en la redéfinissant. Notamment, il y a un rapport différent à l'obligation, j'ai l'impression.
Oui, il n'y a pas de lien entre consentement et obligation quand on parle de consentement sexuel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'obligation de coucher avec quelqu'un. Ça a été très longtemps le cas, hein, puisque en France et dans les autres pays, c'est à partir des années 80 et 90 qu'on ne considère plus que les époux ont obligation de coucher les uns avec les autres, ou plus complètement, parce qu'on
le
a encore le
conjugal.
Devoir conjugal,
oui.
Mais non, mais c'est surtout à partir du moment où il y a la pénalisation du viol entre époux qu'on considère.
Oui, parce que ce qu'il faut quand même dire, ce que vous le savez, mais les auditeurs ne le savent pas tous, c'est que c'est très récent, donnez-moi la date exacte, mais c'est très récent que le viol entre époux soit simplement reconnu comme possible.
Oui, c'est au début des années 90 qu'on ne considère plus que c'est automatique que vous acceptez de coucher avec votre mari ou votre femme. Donc, ça veut dire que ça ne fait que 30 ans qu'on a le droit de ne pas avoir envie de coucher avec son mari certains soirs ou avec sa femme. Donc, ça veut dire que c'est qu'à partir de c'est que depuis 30 ans qu'on a le droit de ne pas consentir à un rapport sexuel dans le mariage. Donc, on n'a plus d'obligation contractuelle par le contrat de mariage. Mais ce qui m'intéresse ici, fondamentalement, pour parler de choses un peu moins techniques, c'est de dire qu'au fond, la notion de consentement, elle peut s'appliquer dans plein de domaines différents. On peut parler de consentement en droit, on peut parler de consentement en politique. Vous faisiez référence au contrat social. Donc là, il y a la question de à quoi on consent quand on est citoyen d'un pays? Pourquoi on obéit aux lois? C'est parce qu'on consent à obéir à la Constitution. Comment la notion de consentement nous permet de comprendre ça? Et ensuite, le consentement dans les affaires, disons, intimes. Et donc, il y a le consentement au mariage, qui est une grande tradition catholique, en fait, initialement chrétienne, mais c'est moins... La question du consentement des époux est moins centrale et moins théorisée en termes de consentement chez la plupart des protestants que chez les catholiques. Et la question du consentement sexuel. Mais ça, c'est le consentement dans ce qu'on a très longtemps considéré comme la sphère privée. Mmh. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être d'accord?
C'est ça. C'est ça qui est très beau dans votre livre. Vous montrez que le consentement est un problème philosophique et vous distinguez consentir en étant d'accord, dire oui sans consentir, consentir sans dire vraiment oui. Et d'ailleurs, peut-être pour revenir sur le consentement sexuel, est-ce que vous diriez que dans ce cas-là, le cas du consentement sexuel, consentir, c'est nécessairement savoir à quoi on consent?
Ben c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on considère en droit, par exemple, on considère qu'il faut que le consentement soit éclairé. En bioéthique, on considère qu'il faut que le consentement soit éclairé. Vous savez, c'est toutes les questions sur les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, à quoi ils peuvent consentir dans leurs soins, parce qu'il faut comprendre ce qu'on accepte. Et le problème, c'est que est-ce qu'on sait vraiment à quoi on consent quand on couche avec quelqu'un? Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Surtout, en tout cas, peut-être à l'instant T, oui, mais peut-être à l'instant T plus un, non.
Oui, bien sûr. Alors ça fait partie des trucs qu'on a beaucoup entendus, de dire, là là, mais les féministes, en fait, elles veulent pouvoir accuser des types de viols alors qu'elles étaient juste ivres et que en fin de soirée, on peut accepter de coucher avec un type qu'on trouve en fait moche le lendemain matin, et donc c'est facile de dire que c'était un viol. Bon, moi je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que les données montrent que c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est évident qu'il faut prendre en compte les différentes temporalités du consentement. Et je pense que c'est intéressant, c'est une des leçons, on y reviendra, je pense, des pratiques BDSM, que de considérer qu'il y a plusieurs temps du consentement.
Donc c'est sadomaso, bondage.
Voilà, ouais. le bondage. Et c'est l'idée que on peut dire d'accord ou pas d'accord avant, qu'ensuite, pendant qu'on couche avec quelqu'un, il y a plein de manières de dire ou de faire sentir bah ça, je veux bien, ça, j'ai pas envie, ah non, ça, on arrête, etc. Mais il y a aussi une façon de penser après coup, de dire ah ouais, en fait, ce qu'on a fait hier soir, en fait, c'était pas cool. Sur le moment, j'ai pas trouvé de moyen de dire que ça me plaisait pas, ou au contraire, de dire ah ben, je pensais que j'étais pas tellement partant ou partante, et en fait, c'était vraiment bien. Donc, cette idée qu'il y a aussi un futur du consentement, qu'on revient sur nos expériences sexuelles passées, qu'elles nous apprennent des choses sur nous comme sujet incarné, donc comme sujet qui avons des corps et des désirs et des plaisirs.
En vous entendant parler, on comprend bien que d'abord vous posez le problème du consentement comme un véritable objet philosophique, ce qui est fort, c'est vraiment une démarche de philosophe. On voit qu'il y a un problème juridique, un problème politique, un problème moral, et on devine ce vers quoi on va aller. C'est que comme on ne peut pas savoir très clairement, et bien peut-être la solution, c'est ce que vous appelez, et c'est le titre de votre très bel essai, la conversation des sexes. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire que cette conversation des sexes. Et quand même, sans vouloir trop spoiler, je précise à nos auditeurs que ce mot, eh bien, consentement, on va l'entendre de manière nouvelle grâce à votre livre, avec une très belle définition que pour l'instant, on garde pour nous. On écoute une très belle chanson de The Slits et on en parle après.
Your plans to make me
C'était The Slits, I heard it through the grapevine.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Manon Garcia, nous parlons de cet excellent essai, La conversation des sexes, sous-titré, et c'est important, Philosophie du consentement aux éditions Climat. Manon Garcia, vous venez d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, de remporter le prix du Festival philosophique de Monaco pour ce très beau livre, où en fait, évidemment, vous dites que le consentement, c'est mieux que l'absence de consentement, mais vous montrez que ce n'est pas la panacée, que le consentement, ce n'est pas si clair, et vous allez proposer autre chose que de simplement tout régler par l'idée du consentement, qui est la notion de conversation des sexes, et je précise pour nos auditeurs que même ce mot de consentement, on va l'entendre grâce à vous résonner de manière nouvelle, je dirais franchement de manière belle, tendre et même excitante. Mais n'allons pas trop vite. Revenez sur le consentement. Peut-être pour bien expliquer à nos auditeurs, montrer la différence entre la dimension juridique et le sens moral du consentement.
Oui, disons que la façon dont plein de gens posent la question du consentement sexuel aujourd'hui, c'est de dire qui va en prison ? Qui on envoie en prison, pour combien de temps, est-ce que les juges envoient les bonnes personnes en prison, est-ce que les policiers prennent les bonnes plaintes, etc. Comment on lutte contre les violences sexuelles ? Je pense que c'est une question extrêmement importante. Mais je pense qu'on va trop vite, en fait, si on commence avec cette question. Parce que la question, d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qu'on considère qui doit être interdit comme type de pratique sexuelle, parce que c'est des mauvaises pratiques sexuelles, et aussi, et ça je pense, enfin en tout cas c'est mon hypothèse qu'on n'en parle peut-être pas assez, qu'est-ce qu'on devrait rechercher comme type de pratique sexuelle ?
Oui, c'est, vous dites très bien qu'est-ce que le bon sexe,
voilà.
Au sens à la fois du plaisir et du respect éthique de l'autre.
Voilà, au sens de la vie bonne des philosophes, voilà, qu'est-ce que, moi je pense que le sexe est une partie très importante de la vie des humains, je ne suis pas la seule à le penser, et que si on cherche la vie bonne, ben on doit aussi chercher le bon sexe. Mais il y a cette espèce d'idée, pour des raisons historiques très, très faciles à comprendre, que ce n'est pas une bonne idée de se poser cette question-là, parce que les gens qui ont posé cette question-là, ils voulaient empêcher d'autres gens d'avoir des rapports sexuels comme ils l'entendaient. C'est parce que, notamment, les grandes religions ont décidé que l'homosexualité était interdite, que la monogamie était nécessaire, qu'il fallait avoir du sexe que dans le mariage, etc., qu'on a très peur d'un certain moralisme appliqué à la sexualité. Mais en fait, quand on est philosophe, on sait que la philosophie morale, ce n'est pas nécessairement du moralisme. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas nécessairement. Que ça consiste juste à se demander qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qu'on doit faire tous ensemble. Et donc, moi, ma question, c'est de se dire ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que nous devons faire avec nos sexualités et qu'est-ce que nous ne devons pas faire ? Donc, évidemment, la question de la lutte contre les violences sexuelles, elle fait partie de ça. Parce que, évidemment, se demander ce que c'est que le consentement, c'est implicitement se demander ce qui n'est pas du consentement. Donc, ce qui est... Mais les féministes, notamment, ont montré que c'est un peu simpliste de se dire tout sexe consenti est valide, donc il suffit de ne pas avoir dit non, ou peut-être d'avoir dit oui pour que ce soit du bon sexe. C'est plus compliqué que ça.
Bien sûr, et je précise quand même pour les auditeurs que justement, c'est ça qui est très fort dans votre livre. Si vous dites, voilà, c'est pas parce qu'on dit le mauvais sexe, c'est quand il n'y a pas de consentement, que le bon sexe, c'est quand il y a simplement consentement. Vous allez dire, voilà, il y a plusieurs types de consentement, et il y a surtout peut-être encore mieux que de consentir, et ça va être de converser.
Voilà, mais je pense que c'est important de comprendre que jusqu'à très récemment, on pensait que la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'était de ne pas avoir de sexe non consenti. Et que du coup, C'était d'ailleurs la seule chose à laquelle on s'intéressait, le non-consentement. Et il me semble que c'est une des choses qui se passe avec MeToo, de se dire, mais en fait, il y a plein de rapports sexuels qui ne sont pas vraiment consentis, qui ne sont pas du non-consentement au sens du viol, mais on voudrait autre chose que ces rapports sexuels où on était moyennement convaincu, mais bon, on l'a fait, parce qu'après tout, ça se fait pas, il avait envie, voilà. Donc, à quoi ça ressemble du sexe qui est pas...
J'allais avoir l'air d'une pimbèche,
voilà.
Il me semble pourtant que je suis montée chez lui, je lui ai laissé croire que...
Voilà, il va me dire
puis,
que je suis une allumeuse.
Et puis finalement, pourquoi pas ?
Voilà, moi je pense que ça c'est important aussi, le « et pourquoi pas », et donc de se dire, mais alors, qu'est-ce que ce serait du vrai bon sexe ? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est... évidemment, une démarche de philosophie morale, c'est aussi une démarche de philosophie politique implicitement, parce que ce qui est en jeu, c'est de se dire respecter l'autre. On sait que la façon dont le sexe a lieu encore aujourd'hui est très marquée par des injustices d'un niveau politique, qui sont les injustices liées à la domination masculine, à l'homophobie, à la transphobie, à l'inceste, à la pédophilie. Donc la question, c'est comment on prend en compte l'existence d'injustices au niveau politique et comment ça informe nos réflexions morales sur la façon dont on doit se comporter les uns avec les autres.
Et surtout comment on arrive à se libérer de toutes ces choses qui nous imprègnent et dont on ne prend pas exactement la mesure. Alors venons-en maintenant à la très belle proposition de votre livre. Je vais vous laisser le dire. Comment vous voudriez qu'on entende le consentement dans ce rapport au bon sexe ? Je précise quand même ma question parce que il y a toute une tradition de philosophie morale et en fait c'est pas, vous l'avez très bien dit, mais dans votre livre tout dit ça, c'est pas de la moraline, c'est pas du moralisme. C'est bon au sens où c'est ce qu'il y a à rechercher, voilà. Et donc, en quel sens on pourrait entendre ce consentement que vous redéfinissez vers la fin du livre ?
Donc, ce que je fais dans le livre, c'est de revenir à l'étymologie du consentement. C'est mon côté un peu philosophe française qui connaît son latin. Et
donc, qui a quand même eu une très belle carrière aux États-Unis, ce qui est très rare, précisons-le.
Oui, voilà, mais donc de sentir ensemble, parce que c'est ça, consentir, c'est cum en latin, sentire, donc sentir ensemble. Et mon idée, c'est de dire... au lieu de penser en termes de contrat, il faut réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans une interaction avec des gens avec qui on fait du sexe, pour le dire à l'américaine. Et il y a une nouvelle tendance, notamment dans la philosophie américaine contemporaine, mais aussi dans plein d'interactions qu'on a au quotidien, de voir le sexe comme une négociation, en disant, c'est le sexe Tinder, quoi.
Ouais.
On va se voir, je vais te faire ça, tu vas me faire ça. Moi, mon but, c'est de maximiser mon plaisir en minimisant les efforts que je dois faire pour t'en donner. Toi, tu fais le même truc. On arrive à un truc un peu d'économie. Donc, le sexe, un peu comme un échange marchand,
un
quoi.
Deal, quoi. Un deal.
Je fais le minimum pour que tu me donnes le maximum, etc. Et donc, moi, je voulais aller contre cette idée de la négociation, tout en voyant qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la négociation, qui est la prise en compte de l'autre. Mais donc de dire, y a un problème à voir le sexe comme négociation, c'est que je pense que pour beaucoup de gens, coucher avec d'autres gens, c'est pas juste prendre le max de plaisir en donnant le minimum de plaisir à l'autre. Il y a une expérience humaine qui se passe quand on a des rapports sexuels avec les uns avec les autres, qui font qu'on peut prendre plaisir au plaisir de l'autre, qui fait que le plaisir que je prends n'est pas du plaisir que j'enlève à l'autre, etc. Et aussi, et ça je pense que c'est un truc très important pour moi dans le livre, on accède aussi à d'autres choses qu'à du plaisir quand on a des rapports sexuels les uns avec les autres, notamment à la connaissance de soi. Donc je fais, c'est ce à quoi vous faisiez référence au début de l'émission, mais que je pense que à se parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas et de ce qu'on désire et de ce qu'on ne désire pas, on apprend à connaître l'autre, mais on apprend aussi à se connaître soi-même. Et qu'il y a cette espèce d'idée, je vais faire un parallèle bizarre, mais vous savez, Italo Calvino, comme il dit, il s'agit toujours de relire les classiques. Mais c'est comme si il n'y avait jamais eu un moment où on avait lu les premiers livres, où on était devenu, où on avait dû apprendre. Mais c'est un peu pareil avec le sexe. C'est comme si il fallait déjà qu'on sache tout sur ce qu'on est comme sujet désirant, comme
désir,
sujet de plaisir.
Et a fortiori le désir de l'autre.
Voilà, il faudrait déjà tout savoir de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Mais c'est pas ça, le sexe. La réalité, c'est que tout le temps, on se dit, mais ah ouais, ça peut-être, ça me tenterait, mais si jamais, en fait, C'était
la question
horrible.
Que ça pose, votre distinction, on a bien compris, elle est belle, de la négociation et de la conversation. C'est, est-ce que la conversation est vraiment la manière de savoir ça?
Alors oui, moi je pense que oui, parce que je pense qu'il y a dans la conversation la nécessité... La conversation n'est pas un dialogue. Je pense que dans la conversation, il y a l'idée qu'on fait quelque chose ensemble. Et que le fait qu'on le fasse ensemble crée un truc par cette collaboration. Dans l'idée de conversation, il y a l'idée d'une collaboration. Et il y a aussi l'idée que... il faut un certain nombre de conditions pour que cette conversation puisse avoir lieu. Et moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est que je pense que dans l'état actuel des choses, le patriarcat façonne nos vies sexuelles et sentimentales et que ça donne des devoirs aux hommes plus qu'aux femmes et que dans les rapports hétérosexuels. Et ce que j'entends par là, c'est de dire... Pendant très longtemps, on a considéré que le consentement, c'était l'affaire des nanas. Que les femmes, elles avaient qu'à dire oui ou dire non, que de toute façon les hommes ils avaient toujours envie et que donc c'était aux femmes de mettre des limites, mais que c'était toujours sur les épaules des femmes en fait, de dire non, de pas dire non, de dire oui. Et en fait moi je voudrais dire maintenant, le vrai poids du consentement dans les rapports hétérosexuels, en raison de la structure sociale du patriarcat, il est plutôt sur les épaules des hommes. C'est-à-dire que c'est aux hommes de créer les conditions pour que cette conversation puisse avoir lieu.
Vous voulez dire parce qu'ils ont plus de pouvoir, ils ont plus de responsabilité.
Voilà, c'est Spider-Man. Plus de pouvoir, plus de responsabilité. Donc, ça veut dire faire attention à l'autre. Se demander, dire, est-ce que... voilà, c'est pas une question de poser la question à chaque fois qu'on change de position. Mais c'est laisser la place pour vraiment que l'autre puisse avoir voix au chapitre. Que ce soit pas l'homme qui déroule un scénario et ensuite la femme qui a... La femme n'est pas un gendarme sur l'autoroute qui dit non mais maintenant
qui
tu
dit
t'arrêtes.
Oui ou non.
Voilà.
Mais dans une conversation, souvent, c'est l'autre qui me permet de réussir à mieux dire ce que j'ai envie de dire.
Voilà.
C'est peut-être la différence avec le dialogue d'ailleurs. Dans le dialogue, chacun a une position qu'il argumente, comme dans la plupart des dialogues platoniciens. Dans la conversation, à un moment, on ne sait plus qui a dit quoi en fait.
Oui, et c'est ça qui m'intéresse, ce flou-là, cette idée qu'on construit quelque chose ensemble, qu'il n'y a pas il n'y a pas d'auteur ou d'autrice de ce qui est en train de se passer. C'est pas, c'est ce que je disais quand le livre est sorti, on était en plein Covid. Je disais, le consentement, c'est pas un QR code, en fait, ou c'est pas un péage sur une autoroute. Et allez, c'est bon, vous pouvez y aller. On construit le chemin ensemble, on construit à quoi ça va ressembler et on va arriver
au bout du chemin. On peut d'ailleurs changer d'avis.
Oui, on peut changer d'avis, on peut faire demi-tour, on peut dire maintenant on arrête tout. Mais justement, je me demande si on ne fait pas trop attention à changer d'avis et pas assez attention à à quoi ça ressemble et à quoi ça correspond quand on ne change pas d'avis. Mais quand on se prend vraiment en compte l'un l'autre, que c'est pas on déroule un scénario je m'allonge, tu t'allonges dessus, ça dure 5 minutes, on va prendre une douche, je sais pas. Enfin, c'est comme si...
Dans cette conversation, il y a aussi de l'écoute, beaucoup d'écoute, de l'improvisation, je dirais, aussi.
Oui.
Parce que l'improvisation, c'est le contraire de dérouler un plan, justement. Mais il y a quand même un paradoxe dans votre position. C'est que vous dites, d'un côté, le désir est obscur, notamment obscur à moi-même et obscur à l'autre, et en même temps, on peut en parler. Mais est-ce que ça va suffire à dissiper l'obscurité?
Alors, c'est sûr que c'est le cœur du problème. Je prends une partie de mes leçons des pratiques auxquelles je faisais référence un peu plus tôt dans l'émission, qu'on appelle BDSM, donc les pratiques de sadomasochisme organisé, où ils vont dans des salles spéciales avec des gens qui ont toute une éducation liée à ce type de pratique, etc. Et leur idée, c'est de dire qu'il faut mettre en place des systèmes pour qu'on puisse faire des expériences. Et que dans le sexe, on a envie de faire des expériences qui sont très risquées. Et que, du coup, le consentement et la conversation, et eux, ce qu'ils pensent être, la négociation, mais moi, je pense que c'est plutôt une conversation, c'est comment faire en sorte qu'on puisse essayer des choses dont on n'est pas sûr qu'on va les aimer, mais que si on ne les aime pas, ben, on puisse arrêter. Et moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a une forme de cercle vertueux qui consiste à dire ben, « je ne sais pas bien qui je suis, mais ensemble, on se découvre un peu mieux. Et la fois d'après, on sait un peu mieux qui on est. Et on sait un peu mieux aussi comment on hérite des scénarios. » Parce que c'est ce que vous disiez au début, ça me semble très intéressant. On a, pour beaucoup d'entre nous, une imagination sexuelle un peu pauvre et super mainstream, quoi, qui vient du porno, qui vient des films de Hollywood, qui vient
des James Bond.
Et donc la question, c'est comment complexifier tout ça. C'est comme si on était intéressé que par, je sais pas, des trucs de entre nous là, ou comment ça s'appelle, les romans photos, quoi, des trucs vraiment basiques. Bah non, on croit à Proust, on croit à la littérature, on croit. Bah voilà, c'est pareil avec le sexe, il faut complexifier et ça s'apprend.
Mais quand vous passez, proposez un détour par les pratiques bondage, sadomaso, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Parce que quelque part, je comprends pas bien, parce que on retomberait presque chez eux parfois dans le contractualisme, justement.
Oui, alors eux, ils croient, pour des raisons politiques. Intéressante d'ailleurs, à l'importance du contrat, parce qu'ils disent que le contrat, c'est la meilleure, c'est le meilleur moyen de prouver qu'on n'a pas contraint quelqu'un. Et que comme eux, ils ont un problème juridique qui est que si vous fouettez quelqu'un jusqu'au sang en lui mettant des coups de poing, bah, il faut quand même être vraiment sûr que c'est pas juste de la violence, quoi. Ils ont des exigences plus hautes de certification.
Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Est-ce que c'est par exemple l'usage de certains mots pour arrêter? Ils ont cette
pratique-là. Oui, alors moi j'aime bien cette idée-là de dire bon, bah, il faut reconnaître qu'on peut changer d'avis et qu'il faut pouvoir le dire très clairement pendant la scène qu'on a changé d'avis. Donc évidemment, si vous faites des trucs sadomaso, si vous dites non, 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 ça fait partie de la scène, ça fait partie du...
Il vaut mieux dire cerise ou gâteau.
Et donc voilà, il vaut mieux dire frigo, cerise, etc. On sait, si tu dis frigo, on arrête tout. Si tu dis juste cerise, on passe à autre chose.
Accroche tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. L'amour.
C'était Cœur de Clara Luciani.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous avons toujours le grand plaisir d'être avec Manon Garcia et de parler de cet horizon de libération qui est la conversation des sexes, voilà, mieux que le simple consentement. Cette conversation, vous en parlez bien, Manon Garcia, ce n'est pas une négociation, justement. Et c'est quelque chose qui peut permettre le respect, l'écoute, mais aussi l'excitation de demander à l'autre de quoi il a envie, comment il le sent, et aussi de se rapprocher de son propre désir. Je vous demandais quand même avant cette belle chanson de Clara Luciani, est-ce que cette conversation, jusqu'où elle nous permet d'aller, au fond? Parce que ce qui est excitant, c'est aussi ce que je ne comprends pas de l'autre. C'est pas uniquement ce que je comprends. Alors vous dites, c'est important de se comprendre pour se respecter et aussi savoir ce dont l'autre a envie et même pour aller vers plus de plaisir et vers ce que vous appelez le bon sexe. Heureusement, vous l'appelez comme ça. Mais quand même, est-ce que parfois c'est pas aussi excitant de pas se comprendre, paradoxalement?
C'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre parce que d'un côté, je suis d'accord avec vous et je vous comprends, mais je pense que cette idée de ce qui est intéressant, c'est de ne pas se comprendre, a été tellement utilisée par les hommes pour obtenir du sexe des femmes contre leur gré, que je suis un peu sceptique.
C'est-à-dire oui, vous voulez dire pour l'instant?
Pour l'instant, voilà. C'est-à-dire que plein de choses que je dis dans le livre, et on peut y revenir, c'est comme cette idée que le consentement devrait être verbal, c'est dans l'état actuel des choses. Moi, évidemment, j'espère un monde où il suffira d'avoir un petit mouvement de recul face à quelque chose pour que l'autre reconnaisse que, en fait, on n'a pas très envie là de ce qui est en train de se passer. Mais la réalité, ce que montrent les études de sociologie, de psychologie, c'est que, et de droit d'ailleurs, et ce qui se passe dans les tribunaux, c'est que dans les rapports hétérosexuels et même dans certains rapports homosexuels, et dans les rapports avec les enfants, les hommes n'entendent pas le non et ne font pas attention à ce que les autres gens leur disent de leur désir ou de leur plaisir. Et donc, cette question de l'idée que ce qui est sexy, c'est ce qu'on ne connaît pas de l'autre, je me demande dans quelle mesure elle est liée à cette image de l'éternel féminin, de la femme, de toute façon.
Énigmatique, mystérieuse.
C'est voilà, à une passante, voilà, Baudelaire, à une passante, un éclair puis la nuit, fugitive beauté. Ouais. Mais vous voyez, c'est comme quand Finkielkraut, il dit, mais moi, j'aime les femmes, elles mettent de la beauté dans la rue, quand je passe dans la rue, ma journée est plus belle parce qu'il y a des femmes belles. Moi, je voudrais être un être humain, je voudrais pas être une plante qui mette de la beauté, ou pas, d'ailleurs, dans le quotidien de Finkielkraut, ou de qui que ce soit d'autre. C'est-à-dire que ce qui m'inquiète dans cette idée du désir comme étrangeté, c'est que c'est une façon de déshumaniser les gens pour qui on a du désir. Donc si c'était un acquis que les gens avec qui on a des rapports sont des humains et qu'on les traite de manière respectueuse comme on traite des humains, alors je veux bien...
Plus tard peut-être, plus tard.
Voilà, plus tard
on
peut-être.
On a des raisons d'espérer si des gens vous lisent.
Non mais moi je suis optimiste, mais je pense que dans l'état actuel des choses, c'est important de dire le plaisir de l'obscurité et du mystère, peut-être que temporairement on peut les amoindrir un peu pour faire le plaisir de se connaître et de se respecter et de s'aimer, mais pas au sens romantique. Je veux dire, moi, je pense qu'on peut avoir... C'est une question qu'on m'a posée et je pense qu'elle est très bonne. On peut avoir un plan cul...
Un bon plan cul.
Je pense pas que le seul sexe qui soit bon, ce soit du sexe monogame, hétérosexuel, marié, tout ça. Mais je pense qu'il faut faire attention à l'autre.
Ouais, mais vous savez, je vais vous rassurer, et puis rassurer nos auditeurs, quand bien même on irait très très loin dans cette conversation sexuelle que moi je trouve très belle, très excitante, il restera quand même du mystère. Je veux dire, le plaisir c'est quand même mystérieuse, et donc on va pas tout élucider non plus dans cette conversation. On entend bien ce que vous dites, que un jour, peut-être, on pourra parler d'une conversation des sexes qui se passe d'abord davantage entre égaux, déjà, et puis peut-être avec autre chose que des mots, avec des silences, avec des gestes, quand on aura peut-être grandi de la capacité à se respecter et de la capacité à s'écouter. Mais du coup, venons-en à peut-être ce qui est la condition de l'efficacité de cette conversation des sexes, c'est l'égalité. C'est qu'il s'agit d'une conversation en égaux. Peut-être je vais lire un passage de votre livre pour qu'on comprenne bien, un passage que j'ai trouvé très fort et qui, à mon avis, est ce vers quoi le livre arrive. Et peut-être après, vous pouvez répondre à cette question, ça veut dire quoi égaliser, érotiser l'égalité. Mais d'abord, je lis un passage de votre bel essai, La conversation des sexes, Manon Garcia. Mais l'étymologie même de consentir comprend une troisième voie possible, celle du sentir ensemble, celle du consentement comme accord et comme respect de l'autre. Si face à toutes les réserves que l'on peut opposer au vocabulaire du consentement, donc c'est tout votre livre qui montre ces réserves, eh bien il continue d'être tant utilisé, c'est précisément parce qu'il contient quelque chose comme la promesse d'un érotisme entre égaux, où les consentements s'échangent plus qu'ils ne se donnent unilatéralement.
Alors là, c'est ce que j'essayais de dire, c'est un peu ce que je disais il y a un instant de dire que le consentement, c'est pas un QR code, quoi. C'est-à-dire de dire, c'est pas j'ai donné mon consentement et c'est bon. C'est de dire, bah, ce qui est intéressant, c'est des égos qui se parlent et que ces égos qui se parlent, ça fait partie du plaisir, du désir et de ce qu'il y a de beau dans la rencontre de leur corps. Après, je pense qu'on a du mal, on se dit, ah ouais, l'égalité, pourquoi parler d'égalité dans le sexe, etc. Parce que notre idée d'égalité est intrinsèquement liée à l'idée de liberté, et qu'on a cette espèce d'image d'épinal qu'on serait des individus pleinement autonomes. Et c'est ce qu'on se raconte dans la vie politique, notamment, et de dire, ben voilà, on a besoin de personne, on est autonome, etc. Mais la réalité de nos vies, c'est que notre autonomie est toujours limitée. Elle est limitée par notre connaissance de nous-mêmes, elle est limitée par la structure sociale dans laquelle nous vivons, etc. Et que donc, la question de l'égalité, c'est de dire, ben voilà, comment on fait pour que notre relation les uns avec les autres ne vienne pas limiter encore plus notre autonomie et viennent au contraire reconnaître ce qui fait chez l'autre que son autonomie est limitée. Et du coup, l'idée, c'est pas de dire « soyons deux libertés l'une avec l'autre » ou trois libertés ou quatre libertés, mais plutôt « aidons-nous les uns les autres à nous libérer un petit peu ». Et donc, c'est pour ça ce que je disais sur les grands pouvoirs, les grandes responsabilités, etc. C'est que j'ai écrit ce premier livre qui s'appelle « On n'est pas soumise, on le devient » pour montrer comment les femmes sont sans cesse invitées, éduquées, poussées à se conformer, à se soumettre, à être gentilles, à faire passer le désir des autres devant le leur, etc. Bon, ben, ça fait que quand une femme se retrouve face à un homme et qu'il lui dit « Bon alors, t'as envie de quoi ?» Ben, si toute votre vie, on vous dit ce dont il a envie, lui, c'est plus important que ce dont t'as envie, toi. Mais ça suffit pas de dire t'as envie de quoi. Il faut créer des conditions dans la conversation pour que l'autre ait l'espace de tout d'un coup se dire « Ah ben d'habitude, on s'intéresse pas à ce dont j'ai envie, mais là, ce dont j'ai envie compte vraiment. Et ce dont j'ai envie n'a pas l'obligation d'être juste le reflet de ce dont il a envie. » Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on libère les autres dans le rapport qu'on a avec eux, comment on prend en compte la limitation de leur autonomie.
Surtout que chacun est libre à l'autre, au fond. Ça va dans les deux sens.
Voilà, c'est ça. Parce que moi, je pense, je faisais référence à ça tout à l'heure brièvement, mais je pense que pour les hommes, c'est aussi, d'une part, la soumission des femmes est quelque chose qui a un impact sur eux. Alors, oui, ça leur donne plein de privilèges. Mais enfin, il y a aussi des hommes qui aimeraient bien que leur compagne ou la personne avec qui ils couchent soit moins empêchée par le patriarcat. Il y a des hommes qui aimeraient ça. Et les hommes sont aussi très empêchés et très affectés par les normes de la virilité. Je ne dis pas que c'est pareil, hein. Je ne mets pas les choses sur un même niveau, mais c'est aussi une réalité. L'autonomie des hommes est limitée par les normes de la masculinité hégémonique, traditionnelle. Donc, les hommes aussi ont quelque chose à gagner de cette conversation-là. Alors moi, c'est toujours une question, en fait, ça c'est une question politique, c'est que je suis profondément convaincue que les hommes ont un intérêt sexuel au féminisme. Mais je n'ai pas envie de convaincre les hommes d'être féministes en leur disant, vous verrez, au pieu, ça va être vraiment super. Donc, je suis un peu... Mais la réalité, c'est que je pense que les hommes ont tout à gagner de cette conversation de sexe.
Alors, quand on vous entend, on voit aussi que ce qui va être un obstacle, il va y avoir pas mal d'obstacles sur cette route vers la libération, vers l'érotisation de l'égalité et vers la conversation des sexes. Et il y a notamment tous ces préjugés, tous ces présupposés qu'on a en soi, qui sont notamment hérités du patriarcat, mais pas seulement. Par exemple, je cite pêle-mêle beaucoup de choses qui sont dans votre livre, hein, tous ces obstacles, l'idée que les hommes veulent surtout du sexe et les femmes surtout de l'amour, l'idée que qui ne dit mot consent, l'idée que la pénétration est le cœur du sexe. Et donc du coup, comment on fait pour se débarrasser de ces préjugés? Ça va prendre du temps? Vous avez de l'espoir?
Oui, alors je pense qu'une première façon de se débarrasser de ces préjugés, c'est pour les hommes d'écouter ce que le monde leur dit. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'écoutent pas. Par exemple, c'est très drôle, il y a une étude qui montre que dans l'OCDE, je crois, les femmes françaises sont celles qui reportent la moins grande satisfaction sexuelle de tous les pays d'Europe, que vraiment elles trouvent que les hommes français sont vraiment des amants catastrophiques. Bon, mais quand même beaucoup d'hommes en France pensent qu'ils sont vraiment les dieux du pieux, quoi. Donc ça veut quand même dire qu'ils n'écoutent pas beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup d'études qui montrent, les études sur ce sujet montrent systématiquement que les lesbiennes ont un taux de satisfaction sexuelle immensément plus élevé que les femmes hétérosexuelles et qu'elles ont à peu près, les lesbiennes ont à peu près le même taux de satisfaction sexuelle que les hommes hétérosexuels ou les hommes homosexuels. Les seules qui sont perdantes à tous les coups, c'est les femmes hétérosexuelles. Ça veut dire que les hommes ne les écoutent pas. Donc la première étape, c'est quand même de se dire, bon bah voilà, à quoi ça correspond, le plaisir féminin, le clitoris, tout ça. Enfin, il y a un niveau assez basique. Après, il y a une question de juste faire attention à l'autre. Et je reviens à ce que je disais en début d'émission, mais ça me travaille vraiment. Pourquoi des gens qui croient si profondément au rapport humain, à la culture, etc., ont tant de mal à imaginer que le sexe soit un endroit où l'autre compte?
Eh bien écoutez, Manon Garcia, on restera sur cette très belle question. Vous avez d'ailleurs apporté pas mal d'éléments de réponse pendant cette émission. Pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin. Alors évidemment féministe, mais pas simplement, précise. Je dirais aussi que c'est une philosophie de l'éthique méliorative. C'est un courant de la philosophie qui est le vôtre, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais je vais le faire maintenant. C'est l'idée que la philosophie, elle permet d'affiner des concepts pour nous aider ensuite à mieux vivre. Je dirais enfin évidemment une philosophie excitante qui est à la fin aboutit sur l'idée d'une expérience érotique, une expérience érotique redéfinie, non pas d'après les critères hérités du patriarcat de la domination, mais avec davantage de respect, d'égalité, d'écoute, bref, tout ce que vous avez appelé joliment une conversation qui n'est surtout pas une négociation. Manon Garcia, merci, je recommande votre livre,
merci
La conversation des sexes, sous-titré Philosophie du consentement. Chez Climat. C'était la dernière émission de Sous le soleil de Platon cet été. J'ai été très heureux de toutes ces rencontres. Alors, je ne peux pas citer tout le monde, mais voilà, Manon Garcia aujourd'hui, Christine Angot, Peter Sandy, François Hollande, Dominica, Claire Marin, Dave, je ne me souviens pas de tout le monde. J'ai adoré ces rencontres. J'ai adoré voir apparaître des visages qui ne correspondaient pas à ce qu'on imaginait. Pour moi, c'est ça, une vraie rencontre, une rencontre de l'inattendu. Et j'espère que toutes ces rencontres, toutes ces émissions auront été pour vous aussi une rencontre avec, eh bien, la philosophie. À bientôt.